Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco qu'on retrouvera en fin d'émission pour sa chronique. Maurice qui nous a lancé un défi. Parler de l'épopée gourmande des fromages de Suisse, sujet de notre émission du jour, sans parler avant, allez, 12h20, du plus populaire d'entre eux, et je vous laisse deviner lequel parmi la liste suivante. Appenzeller, Emmentaler, Etiva, Gruyère, Raclette, Sprintz, Tête de Moine, Tome Vaudoise, Vacherin Fribourgeois, Vacherin Mondor. Les fromages de Suisse sont, comme l'écrit le co-auteur de notre invité, mieux qu'une dégustation, un art de vivre. Bonjour Stéphane Méjanès.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chroniqueur gastronomique et auteur d'un certain nombre de livres. Le dernier, avec François Robin, donc, Les fromages de Suisse, apparu chez Glénat. Et avec nous, eh bien, depuis la Suisse, nous avons un fromager de Gruyère et de Vacherin fribourgeois AOP, Nicolas Schmutz. Bonjour.
Bonjour Caroline. Bonjour
Merci Stéphane. D'être avec nous. Vos fromages se trouvent à la fromagerie de Mézières, au milieu du canton de Fribourg. C'est l'un des quatre cantons de la zone des Gruyères AOP. Nous verrons ça dans un instant. Mais d'abord, quelques généralités avec vous, Stéphane Méjanès. Déjà, faites-vous une différence, c'est tout bête, hein, mais entre les fromages de Suisse et les fromages suisses.
Non, évidemment, c'est un peu une formulation qui permet au fromage de Suisse de revendiquer le pays avec une majuscule de Suisse, avec une majuscule à Suisse, plutôt qu'une minuscule à l'adjectif. Non, les fromages de Suisse sont bien suisses, il n'y a aucun doute là-dessus.
Ensuite, pourquoi en Suisse, je vais faire ma chauvine, hein, alors qu'on a tant de fromages de France?
Ben justement, parce que je ne suis pas chauvin, Caroline. J'ai eu la chance d'écrire pas mal sur le fromage ces dernières années, notamment avec Bernard Muraveau, qui est un mof fromager bien connu à Grenoble. J'avais écrit un livre sur les sites remarquables du goût, qui est un label dans lequel il y a beaucoup de fromage. Donc voilà, le fromage, ça me passionne. Pour reprendre la baseline d'une émission célèbre, c'est aussi un fait culturel majeur, le fromage, au sein de l'alimentation, je pense. C'est un produit quand même très étonnant, hein. Avec quatre ingrédients, grosso modo, on fait des centaines, voire des milliers de fromages différents. Et puis, au départ, c'était vraiment de la survie, hein. C'était l'idée de préserver la protéine animale qu'on trouvait en été pour l'hiver, quand les vaches ne donnaient plus de lait ou beaucoup moins de lait. Eh bien, on préservait le lait. Parfois, sans doute qu'on l'a découvert un peu par hasard. C'était la sérendipité de l'époque. Mais le fromage, c'est très important dans l'histoire de l'humanité. Donc, forcément, pour un journaliste, un chroniqueur comme moi, c'est un sujet intéressant. Et donc, les fromages de Suisse, il y a quand même plus de 700 fromages en Suisse. Hein.
C'est une terre de fromage aussi.
Oui, absolument.
On dit même que c'est le berceau des fromages à pâte dure, donc c'est pas n'importe quelle terre.
Tout à fait. Donc pour moi, ça m'a beaucoup intéressé d'aller explorer un petit peu cette terre de fromage.
Lait de vache essentiellement, hein, le fromage.
Oui, il y a très peu de. Il y a un peu de fromage de chèvre, mais en l'occurrence, pas dans le livre. Donc oui, c'est principalement des vaches.
Ouais. Et surtout une multitude de petites structures, souvent familiales.
Oui, c'est ça la particularité des fromages de Suisse. C'est vraiment d'avoir su préserver tout un tissu territorial, culturel, paysager. Les fromages de Suisse sont toujours bien défendus avec des interprofessions, des organismes même nationaux qui défendent le fromage de Suisse. D'ailleurs, ce livre a été écrit en partenariat avec Switzerland Cheese Marketing, qui se charge de promouvoir les fromages de Suisse partout dans le monde. Donc, ils sont très soudés et ils ont su préserver ce côté artisanal. Il y a bien sûr des productions un peu plus importantes, un peu plus industrialisées en Suisse, comme partout. Mais il y a quand même, notamment dans les AOP, puisque là, on s'est concentré dans le livre sur 8 AOP, une marque déposée, et puis un dixième qui n'a pas d'AOP à ce jour. Donc il y a vraiment ce souci.
AOP, appellation d'origine protégée.
Appellation d'origine protégée, c'est l'équivalent européen des AOC qui ont été inventés en France, appellation d'origine contrôlée.
Il y a 10 fromages dans votre ouvrage, Les fromages de Suisse, Stéphane Méjanès, emblématiques du terroir helvétique. Est-ce qu'il y en a beaucoup plus, 700, vous disiez qu'il y en a beaucoup plus, mais est-ce qu'il y a des fromages parmi ceux que vous avez choisis qui sont que en Suisse?
Par définition, chaque fromage est de son territoire, de son pays. Même si, comme je le disais, en fait, la technique au départ, elle est assez basique. Hein, c'est un peu toujours la même. On a du lait, on va le faire cailler, on va l'ensemencer, et puis ensuite on va le mouler, et puis on va l'affiner. Globalement, il y a pas partout dans le monde, le fromage se fait ainsi. Mais évidemment que chaque fromage est le produit de son terroir, des vaches, du lait, de l'herbe que les vaches mangent. Donc tous les fromages de Suisse sont singuliers, comme tous les fromages français sont singuliers. Il y a des similarités. On a même des fromages qui portent les mêmes noms.
C'est ça, c'est
de
pour ça que
côté.
Je vous pose la question.
Donc, parfois, conclusion.
Certains, on pensait qu'ils étaient français. Je pense à la tête de moine. Et puis, on découvre qu'ils sont suisses. D'autres, on peut les trouver de part et d'autre, du Jura suisse ou du Jura français, par exemple. Mais si je dis Mont-d'Or, c'est français. Mais si je dis Vacherin Mont-d'Or.
C'est suisse.
C'est suisse.
Absolument.
Hein, c'est ça.
Ouais. Et si on dit Gruyère, d'un côté, c'est Gruyère IGP en France et Gruyère AOP en Suisse.
Alors, on va profiter de la présence dans cette émission d'un fromager de Gruyère suisse, Nicolas Schmutz, pour poser la question de cette AOP. Prenons le Gruyère, justement, que vous faites, Nicolas Schmutz, avec un cahier des charges extrêmement précis. C'est quoi les critères AOP du Gruyère que vous faites ?
Alors, notre cahier des charges comprend des éléments qui concernent les producteurs de lait, d'autres les fromagers et d'autres encore les affineurs, en fait les trois partenaires de cette interprofession du Gruyère dont parlait Stéphane tout à l'heure. La partie producteur de lait, eh bien, un des points les plus importants, c'est l'utilisation d'herbes et de foin, donc l'ensilage d'herbe est absolument proscrit. Ensuite de ça, bien, c'est clair que les vaches vont pouvoir manger également. Elles doivent manger équilibré, c'est comme nous. Donc il y a quelques ingrédients supplémentaires qu'elles ont droit dans la ration. Le producteur de lait doit venir couler son lait, comme on le dit chez nous, deux fois par jour, 365 jours par année. Il y a donc la proximité qui est absolument nécessaire. Par exemple, dans ma fromagerie, les 37 producteurs de lait sociétaires de cette fromagerie se situent dans un rayon de 2 km, donc on est très très proches les uns des autres. Ça, c'est un point essentiel. Ensuite, il n'a pas le droit de refroidir son lait en dessous de 12 degrés centigrades, par exemple, parce qu'on veut garder les propriétés de ce lait. On ne veut pas aplatir le terroir qui est derrière son savoir-faire aux producteurs de lait. Voilà quelques points pour la production laitière concernant la fabrication elle-même. Eh bien, c'est de réceptionner bien sûr le lait deux fois par jour également. Interdiction de chauffer ce lait préalablement, donc c'est du lait cru et uniquement du lait cru. La fabrication commence avec la réception du lait du soir. C'est là que commence le conditionnement de ce lait, avec bien sûr pour nous aussi l'interdiction de refroidir ce lait en dessous de 12 degrés. Et ensuite, on doit utiliser, c'est ce qui nous a sauvé aussi dans le Gruyère, nos propres levains de fabrication, c'est-à-dire qu'on va en fin de fabrication puiser notre petit lait, comme on l'appelle, ou notre sérum dans la cuve pour cultiver ces bactéries lactiques qui s'y trouvent jusqu'au lendemain et qui serviront donc à acidifier la fabrication du lendemain. La fabrication d'aujourd'hui est donc influencée par celle d'hier et influencera celle de demain.
Et le Gruyère ne peut pas être vendu avant l'âge de 5 mois, c'est ça ?
Alors ça, c'est le
strict. Pour la partie affinage.
Bien sûr. Voilà, pour la partie affinage, l'âge moyen des Gruyères vendues est de 7 mois et demi environ. Et puis ça peut aller jusqu'à une année, deux ans, trois ans, en fonction de la clientèle.
Alors ce qu'il faut bien dire,
c'est des points importants.
Ce qu'il faut bien dire, Nicolas Schmutz, quand même, sur la particularité de ce Gruyère AOP que vous faites, c'est qu'il n'a pas de trou. C'est les mentales qui en a. Surtout pas.
Hein ? Surtout pas. Mais c'est ce qui nous différencie également du Gruyère IGP dont vous parliez tout à l'heure, une interprofession voisine avec qui on s'entend très bien. On s'invite lors de nos assises régulières pour se comprendre et respecter le produit que l'on fabrique de part et d'autre avec ses spécificités. Et c'est ce qui nous distingue entre ces deux Gruyère notamment, ben c'est aussi l'ouverture, oui, mais notre gruyère n'a pas de trou, effectivement.
Et même si la mécanisation est passée par là, les gestes, et vous disiez c'est d'antan et pour demain, mais les gestes sont identiques à ceux d'antan quand vous fabriquez, vous, le gruyère, Nicolas Schmutz ?
Oui, alors absolument, le contact avec la matière est très très important, la main dans la cuve, c'est le geste du fromager, la nécessité au moment du décaillage, c'est vivre avec cette matière, la sentir parce qu'elle évolue tous les jours. Chez moi j'ai 3 cuves, chaque cuve se comporte de manière différente parce qu'on n'a pas les mêmes laits, les mêmes terroirs. Parmi ces 38 producteurs de lait, bien, il y en a qui ont des pâturages qui sont au revers, d'autres à la droite, etc. Donc on a des fourrages qui sont différents, donc des qualités de lait, des propriétés qui sont différentes et donc des comportements dans la cuve qui sont également différents. Et donc les gestes sont identiques, mais effectivement la mécanisation est aussi venue nous aider. Donc l'automatisation chez nous est interdite. On a juste à la cave un robot qui est autorisé parce que ben, la pénibilité du travail fait en sorte que on se l'est autorisé, voilà.
Vous savez à quoi ça me fait penser, ce que vous dites, Nicolas Schmutz ? Ça me fait penser à un film français qui est sorti en 2024, qui a pour titre « Vin Dieu » et qui est signé Louise Courvoisier. Extrait.
Bon, bah alors là, notre lait, il commence à être à la bonne température. Bah, faut dire que le soleil, il nous aura bien aidé aujourd'hui, hein.
C'est quoi ce truc ?
Alors, ce truc-là, ça s'appelle de la présure. C'est ce qui va permettre au lait de cailler, donc de s'épaissir pour devenir du fromage.
On aurait pu attendre encore longtemps. Ta gueule, toi.
C'est fait à base de caillettes de veau séchées. Chaque fromager fait son mélange qui va donner la singularité à son fromage. Bon, bah alors là, ça y est, hein. On a caillé, on a tranché et on a chauffé. Et regardez voir, on a quasiment du fromage, là. Voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est prêt. It is ready.
Extrait de Vin Dieu de Louise Courvoisier sur la fabrication du comté dans le Jura français. Mais finalement, Stéphane Méjanès, on l'entend et on entend aussi à ce que dit Nicolas Schmutz. On entend d'abord qu'il y a beaucoup de règles, que c'est un véritable art de la transformation, que le lait est à la base de tout. Donc aussi le soin apporté aux vaches. Et ça, vous avez pu en témoigner.
Oui, absolument. J'ai eu l'occasion de rencontrer des éleveurs. Je voulais juste ajouter justement sur cette relation entre le producteur et le fromager. Ce que m'avait dit Nicolas, c'est que compte tenu des normes d'hygiène actuelles, autrefois, les producteurs de lait rentraient dans la fromagerie avec leur lait et ils coulaient, comme le disait Nicolas, leur lait. Aujourd'hui, ils restent à la porte. Et Nicolas, j'ai senti regretter un peu d'être obligé de lui sortir pour aller discuter avec ses producteurs, parce que c'est ça le quotidien, c'est comme il le disait 2 fois par jour, c'est de prendre des nouvelles, comment vont les bêtes, comment va le paysage, le terroir, comment les climats. Donc il y a vraiment ce lien très fort, toute cette chaîne, on disait, ces 3 acteurs que sont le producteur de lait, le fromager et l'affineur sont vraiment liés d'une manière très très forte. Et il faut préserver ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, il y a des cloisonnements. C'est un peu étanche à cause de normes qui sont nécessaires. Hein. Il faut évidemment faire attention à tout ça. Mais c'est essentiel de garder ce lien. Et les éleveurs sont, effectivement, c'est vraiment eux qu'il faut chérir et protéger. On le voit aujourd'hui avec la crise de la filière bovine en France. C'est un métier essentiel, c'est un métier qui dessine les paysages, ça je l'ai vu aussi en Suisse. Il y a des endroits où on ne peut pas cultiver, on ne peut rien cultiver, donc soit on met rien, soit on élève des animaux. Donc et la Suisse, qui est un pays merveilleux, hein. J'ai eu vraiment le plaisir de sillonner la Suisse.
C'est très très beau, hein. Et les photos qu'on peut voir dans ce grand et beau livre, Les fromages de Suisse, le montrent, hein. C'est vraiment splendide. Absolument.
Donc voilà, tout ça est vraiment au cœur de plein de problématiques, et il faut, c'était aussi important de témoigner de ces filières-là pour dire à quel point il fallait les préserver.
À quoi ressemble votre fromagerie de Mézières, Nicolas Schmutz, au milieu du canton de Fribourg, par exemple? Vous avez quoi autour de vous, là?
Des prés, des villages, en fait. Mézières, c'est dans le canton de Fribourg, effectivement, mais dans le district de la Glane. Et c'est là où il y a la plus grande densité laitière et de fromagerie. Tous les villages, pratiquement, ont une fromagerie. Dans la zone Gruyère AOP, il y a 160 exploitations, 160 fromageries. dont un peu plus de la moitié se trouve dans le canton de Fribourg, et les autres dans les cantons de Vaud, Jura, deux districts du canton de Berne, Neuchâtel également. Voilà, c'est là que ça se répartit. Donc, le but, c'est qu'on garde tous ces fromagers de manière décentralisée, parce qu'on veut offrir le choix du produit à nos consommateurs. C'est aussi ça, la qualité. Que
vous revendiquez.
Producteur, ouais. Le fromager doit se, non, le consommateur doit s'identifier à ce produit, quoi. À son gruyère. Voilà.
On a bien compris qu'en tous les cas, vous identifiez bien à votre gruyère. Grand merci, Nicolas Schmutz, de nous avoir parlé de votre gruyère de Suisse. Nous continuons l'émission pour parler de l'Étiva, de la tête de moine, de la Penzeller, de l'Emmentaler et peut-être du fromage de raclette. 12h16 dans Les Bonnes Choses sur France Culture.
Les connaisseurs en bon fromage suisse vous recommandent, parmi le choix incomparable de fromage à pâte molle ou mi-dure, l'excellent Tilsit pasteurisé, une délicieuse spécialité pour les amateurs de fromage au goût raffiné. Fiez-vous à ce label.
Ça date pas d'hier, ça date des années 70, cette publicité pour le Tilsit. Vous connaissez le Tilsit, oui, il n'est pas dans le livre. Hein.
Non, il n'est pas dans le livre.
C'est pas de ma jeunesse.
J'ai vu passer ça. On a évité, notamment, il y a aussi... En fait, en tout, il y a 12 AOP en Suisse. Mais les 4 qui ne sont pas dans le livre sont des fromages plutôt alémaniques avec des noms imprononçables. Donc je suis ravi, que, quand je passe à la radio, de ne pas avoir à prononcer ces noms-là.
Alors, on a parlé de l'emmental en disant que l'emmental était à trous, et, contrairement aux gruyères suisses. L'emmentaler par rapport à l'emmental, c'est quoi ?
Alors, l'emmentaler, c'est vraiment la dénomination suisse, hein, l'emmentaler AOP. C'est vrai que c'est une histoire un peu particulière. En fait, l'Emmentaler est né donc en Suisse, et puis il y a eu, au 19e siècle notamment, et au début du 20e, une émigration assez forte des Suisses qui sont partis un peu partout dans le monde, qui sont partis souvent avec leur savoir-faire, leur goût de l'Emmentaler, parfois des presses même. Donc ils se sont mis à faire le même fromage partout dans le monde. Et puis au fil des décennies, en fait, malheureusement, l'interprofession de l'Emmentaler européen n'a pas pu protéger le nom Emmental. Donc aujourd'hui, on peut faire un fromage qu'on appellera Emmental partout dans le monde. Seul l'Emmentaler AOP. Donc si vous allez chez votre fromager, si vous voulez du vrai Emmentaler suisse, il faut demander de l'Emmentaler AOP. Tout autre Emmental, même si évidemment il y a aussi en Suisse, on fait de l'Emmental un peu générique pour garder des marchés, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Autrefois, l'Emmentaler était le grand fromage suisse, et puis il a été un peu écorné par toute cette diversité, pour le dire très très franchement, par des fromages Emmental qui sont de très très mauvaise qualité. Donc il y a cet enjeu aujourd'hui de reconquérir la force et la qualité de l'Emmentaler. Contrairement au gruyère, qui a toujours su, malgré tout, protéger beaucoup sa qualité, et notamment son AOP versus l'IGP en France. Donc l'Emmentaler, c'est un très... Vraiment, j'ai eu la chance de passer notamment à la maison de l'Emmentaler, où j'ai goûté différents niveaux d'affinage de l'Emmentaler. Hein, ça peut aller très loin. Donc c'est un fromage merveilleux.
Très loin, ça veut dire très vieux ?
Oui, très vieux. Enfin, 2 ans, je crois. Le plus âgé avait 24 mois. Mais je pense qu'on peut pousser encore plus loin. Et puis, il y en a malheureusement des plus jeunes aussi, parce que justement, pour essayer de rester présent sur les marchés, l'Emmentaler a essayé de proposer une autre catégorie d'affinage.
Puisqu'on est dans les Heller, qui sont la dénomination en Suisse par excellence, il y a la Penzeller, qui est assez connue, la Penzeller, qui est produite depuis plus de 700 ans dans cette région de la Penzelle, et qui est, lui, affinée avec un drôle de truc, c'est une saumure d'herbes aromatiques secrètes.
Ouais, ça s'appelle la Sulz, donc la sauce. Hein. Ouais, c'est un... Moi, pour être très franc, avant de commencer ce livre, c'est probablement un de mes fromages préférés. Tout confondu, même français compris. Et je le connaissais assez mal. J'ai eu la chance d'aller dans un canton merveilleux, les cantons de Rhodes intérieur. À Penzeller, Rhodes intérieur, on est complètement à l'est de la Suisse, près du lac de Constance. C'est des paysages merveilleux avec vraiment un fort ancrage de l'élevage, du fromage. Et puis une particularité, c'est donc, la Penzeller n'est pas une AOP, c'est une trademark. Une marque déposée, parce qu'il y a un quatrième acteur au-delà de producteur de lait, fromager, affineur, qui est le canton. qui appartient la marque. Et donc toutes les décisions sont prises dans un collège de ces quatre acteurs. Oula. Mais avec la même exigence, hein, c'est du lait cru. Et puis il y a cette saumure, effectivement, avec 42 herbes aromatiques, des infusions, des macérations. Seules deux personnes connaissent la recette, c'est un peu la chartreuse du fromage. Je suis allé voir dans la distillerie qui fabrique cette saumure, il y a une pièce fermée avec trois clés seulement, deux pour ces deux personnes, un jeune et un plus ancien, qui ont interdiction de voyager ensemble, parce que si jamais, malheureusement, ils périssaient dans un accident, on perdrait la recette. Et puis, une troisième clé pour quelqu'un de la distillerie. Donc, quand il y a besoin de saumure pour les fromagers, ces gens-là s'enferment dans cette pièce, font leur mixture, et ensuite elle est distillée et envoyée aux fromagers qui vont frotter la Appenzeller avec cette saumure qui va donner cette morge et ce goût très particulier de la Appenzeller.
Avant de donner la parole à Maurice Acco pour qu'il nous parle de son fromage mystère, je voudrais quand même que vous me disiez un mot, Stéphane Mézianès, de l'Étiva. L'Étiva, du nom du village dans le canton de Vaud, parce que c'est un fromage très particulier. Il est très rare aussi. C'est vraiment un fromage des hauteurs. C'est-à-dire qu'il est produit entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Et il est produit sur place par 70 familles de producteurs, dont beaucoup au moins de 40 ans. Donc c'est vraiment... C'est très particulier, l'Étiva. Alors, c'est excellent, c'est très cher, parce que c'est très rare, voilà. Et c'est fait dans des conditions incroyables. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, d'ailleurs, on dit, les Suisses tiennent beaucoup à ça, on dit l'Étiva, L'E, donc c'est le l'Étiva. Le nom complet, c'est l'Étiva, c'est pas Étiva avec autre chose. Oui, effectivement, c'est... d'ailleurs, c'est le fromage qui est en couverture du livre. Corentin, qui est fromager dans cette région... nous a montré la fabrication. Donc c'est vraiment, ouais, c'est un fromage des alpages qui n'est produit que par en effet 70 familles, à peu près 430 tonnes produites par an dans cette AOP qui a été obtenue en 2000. Donc les meules font à peu près 35 kilos, il faut 280 litres de lait pour ça. Donc c'est vraiment les alpages du pays d'en haut,
oui, alors,
comme son nom l'indique,
tout en haut,
et du canton de Vaud.
Ouais. Et qui n'est fabriqué artisanalement qu'entre le 10 mai et le 10 octobre, quand les vaches montent au pâturage d'altitude et elles broutent, écrivez-vous, une herbe parfumée à 230 variétés florales.
C'est ça la magie du lait et du fromage, effectivement, c'est toute cette diversité floristique qui fait que le lait forcément s'imprègne de ces goûts-là, et ce fromage en particulier a cette typicité parce qu'il est en altitude, dans un endroit préservé, et que les vaches paissent en toute tranquillité.
Bon, quand on en trouve quelquefois chez les fromagers en France, en tout cas, c'est un fromage donc qui coûte cher. Souvent, les fromages de Suisse en France sont plus chers que les autres, à part peut-être un. À part si vous me détrompez, vous me contredites, mais à part un, c'est un fromage très populaire, on en mange beaucoup en France, et Maurice Acco va nous en parler. Évidemment, Maurice, on ne peut pas parler de fromage suisse sans parler d'un indémodable.
Oui, et cet indémodable, c'est la raclette. Caroline, est-ce que vous aimez la raclette ?
Uniquement quand je suis à la montagne.
Et savez-vous à combien de raclettes vous en êtes cette saison ?
Du coup, zéro, je suis pas allée à la montagne cette année encore.
Non, c'est dommage. Moi, j'en suis à 4 pour le moment.
C'est beaucoup.
C'est un petit score, hein, mais je compte bien me rattraper. Donc la raclette est originaire de Suisse, dans le canton du Valais plus précisément. Inventée par des bergers au 19e siècle, elle se nommait fromage rôti, car on faisait fondre le fromage près d'une source de chaleur pour ensuite le racler. Ce n'est que vers la fin des années 1800 qu'elle prend officiellement le nom de raclette. Elle porte d'ailleurs toujours le nom de fromage rôti en suisse allemand. Raclette est aussi le nom du fromage, qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 2003. Ce fromage est aussi produit dans plusieurs régions à travers le monde. Mais à l'exception de la raclette de Savoie, qui détient une IGP, seul celui produit en Suisse porte l'AOP. Ils en produisent plus de 13 000 tonnes par an. Traditionnellement, la raclette est fondue au feu de bois et est consommée accompagnée de pommes de terre et de légumes vinaigrés, comme des cornichons ou des petits oignons. Puis l'invention de la machine à raclette électrique dans les années 50 vient démocratiser et faire traverser les frontières à cette création typiquement suisse. Ce qui donna une version très française de la raclette, qui l'accompagne majoritairement de charcuterie, version à laquelle les Suisses n'adhèrent pas vraiment. Cette recette est même reconnue en tant que pratique sociale en Suisse, et fait partie de la liste des traditions vivantes, au même titre que l'horlogerie, certaines danses ou chants typiquement suisses.
Oui, comme le yodel, entré au patrimoine immatériel de l'UNESCO à l'automne 2025.
Voilà, vive le yodel. Selon le même institut, la raclette, je cite, a une haute valeur symbolique. Organiser une raclette est synonyme de fête. Et je ne peux qu'être d'accord avec cette affirmation. La raclette est une excellente excuse pour passer du bon temps avec des gens qu'on apprécie, à condition de pas voler mon fromage. Je vais vous donner une petite variante à votre raclette traditionnelle. On va en faire une tourte. Pour ce faire, éplucher puis tailler à la mandoline des tranches de pommes de terre. Puis les mélanger avec un peu de crème liquide et du sel. Dans un plat, disposez plusieurs couches de pommes de terre. Puis insérez une couche de fromage à raclette et refermez avec plusieurs autres couches de pommes de terre. Pour les plus gourmands, vous pouvez y intercaler deux couches de fromage. Et pour les plus gourmets, quelques lamelles de truffe fonctionneront parfaitement. Faire cuire à la manière d'un gratin dauphinois, soit environ une heure à 180 degrés. Quand la lame de votre couteau s'y enfonce sans forcer, c'est que les pommes de terre sont cuites. Faire ensuite refroidir votre base, puis démouler votre plat et le refermer dans de la pâte feuilletée. Cuire à nouveau environ 20 minutes à 200 degrés. Ne pas oublier de faire des petits trous dans le feuilletage afin que la vapeur puisse s'échapper. Une fois cuite, il ne vous reste plus qu'à déguster. Avec de la charcuterie, comme un bon français, ou des légumes au vinaigre à la Suisse. Bon dimanche.
Bon dimanche, Maurice Sacco. C'est le dialogue des cuisines de Maurice Sacco, Stéphane Méjanès. Donc, il a tout dit ou presque sur la raclette. Non, il a pas dit quelque chose d'important sur la raclette.
Il a pas dit le raclette, en fait. Ça, c'est aussi comme l'étiva. Les Suisses tiennent beaucoup au fait que le fromage qui a donné, en effet, la raclette s'appelle le raclette. Puis, en fait, il y a le raclette et il y a les raclettes. En fait, il y a plein en Suisse. J'étais chez un ami fromager à Bruxelles il y a quelques temps qui propose 40 types de raclettes différentes. On le sait bien, ce qu'on aime aujourd'hui, c'est aussi varier les plaisirs. Autrefois, il y avait un fromage, toujours le même pour la raclette. Aujourd'hui, on s'amuse, même avec d'autres fromages qui ne sont pas nécessairement des fromages à raclette. Mais ce qu'il faut dire, c'est que en Suisse, le fromage AOP s'appelle le raclette du Valais AOP. Ils y tiennent.
Ils y tiennent beaucoup. Alors, on peut se poser la question du prix de la raclette, des raclettes ou des autres fromages, et on peut se dire qu'on n'en mange pas beaucoup et qu'on les réserve pour les repas de fête. On peut aussi se poser la question, Stéphane Méjanès, de la conservation. Est-ce qu'on les met au frigo, ces fromages, ou est-ce qu'on les met hors du frigo à température ambiante? Tout ça dépend.
Non, je pense que si on les consomme rapidement, il ne faut pas les mettre au frigo, mais si on veut les garder un peu, il faut les mettre au frigo. Mais en revanche, il faut évidemment les sortir au minimum une heure avant. Voire plus.
Pour les déguster pleinement. Et comme Maurice Sacco terminait sa chronique par une recette, vous-même, dans le livre, Stéphane Méjanès, vous avez demandé à 13 chefs de Belgique, de Suisse, de France, de donner leur propre recette inédite à base de fromage. Je vous ai demandé d'en choisir une, facile et conviviale, qu'on pourrait mettre sur notre site internet. Et vous nous avez proposé les gougères feuilletées à l'Emmentaler AOP de Louis-Philippe Vigilant, qui est chef du relais Bernard Loiseau à Saulieu. C'est facile à faire, ça?
C'est facile si on a un peu d'huile de coude. Hein. Vous cuisinez, je pense, Caroline, mais la pâte à choux... La pâte à choux, c'est vraiment beaucoup de... bien la tourner pour la sécher. Mais effectivement, c'est juste une pâte à choux, entre guillemets, dans laquelle on va incorporer à différents moments de l'Emmentaler. Et à la fin, on va la saupoudrer. C'est une recette vraiment facile. Et Louis-Philippe est un grand cuisinier.
Et c'est donc sur notre site, de la même façon que Nicolas Schmutz nous a proposé sa fondue moitié-moitié, que nous mettons également sur le site Les Fromages de Suisse, une épopée gourmande. C'est votre livre, Stéphane Méjanès, paru aux éditions Glénat. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin, Jean-Christophe Francis à la réalisation, à la technique aujourd'hui Noé Chaban. Nous vous souhaitons non seulement une excellente journée à l'écoute de France Culture, mais d'excellentes fêtes de fin d'année.